Lettre de Jacques, donc, chapitre 2, versets 1 à 7. Le message de Jésus est clair et précis. Ne faites pas de distinction entre les hommes. Nous nous retrouvons devant l'un des fondamentaux les plus beaux et les plus modernes du christianisme. Dieu nous porte un regard identique, équitable et égalitaire à tous, tout en respectant notre individualité, notre singularité, nos attentes et nos chemins. L'amour de Dieu ne se hiérarchise pas entre les dominants et les dominés, entre les riches et les pauvres, entre les oppresseurs et les opprimés, entre les persécuteurs et les persécutés. L'amour de Dieu n'est pas sélectif, exclusif, hiérarchique et arbitraire. Devant le Seigneur, nous sommes tous égaux, parce que tous dignes. Dieu nous accueille tous dans la même égalité d'amour. Le concept de l'égalité universelle est aussi une valeur fondamentale des chrétiens. Le Christ nous appelle tous à le rejoindre, sans distinction de race, de sexe, de culture, de fortune, de nationalité, de communauté et d'opinion. Nous avons tous de la valeur inestimable et de l'importance partagée auprès du Seigneur. Nous avons tous une égalité de traitement devant la loi, devant l'amour de Dieu. Il n'exclut pas certains au profit d'heureux sélectionnés et de privilégiés. Le Seigneur n'est pas le Dieu des privilèges, des injustices et des avantages personnalisés. Bien au contraire, il nous invite à l'impartialité, à l'objectivité, à la justice. Mes frères, ne jugeons pas précipitamment selon les apparences, les titres et les honneurs. Ne soyons pas esclaves de l'image sociale et des conventions. Accueillons égalitairement et équitablement tous nos prochains, qu'ils soient puissants ou heureux, riches ou pauvres, heureux ou malheureux, optimistes ou pessimistes. La vraie richesse est dans la beauté du cœur et de l'esprit. La vraie grandeur est dans la générosité des intentions. La vraie gloire s'illumine dans la beauté et la justesse des actes. La vraie bonté flamboie dans la spontanéité d'amour sans calcul, sans intérêt. Souffrons de nos partialités aveuglantes et méchantes. Repentons-nous de nos préjugés, de nos discriminations, de nos peurs irrationnelles et de nos indifférences. Regardons les yeux de l'âme de notre frère dans un accueil tendre, juste et serein. Je ne suis pas plus privilégié que les autres devant le Seigneur. L'avantage de grâce et de douceur qu'il m'accorde il l'accorde aussi aux autres, à tous mes frères. Ce n'est qu'un avantage général et universel donné pour l'humanité. Alors ce n'est plus un privilège spirituel pour ma petite personne, mais un don de Dieu, une miséricorde infinie, éternelle et universelle du Seigneur. Le Seigneur est équitable avec nous. Soyons équitables avec nos prochains. Si nous mettons notre foi en notre glorieux Jésus-Christ, nous devons agir aussi avec justice. Dieu nous accorde directement et sans condition préalable une dignité. Nous sommes tous dignes, riches ou pauvres, heureux ou malheureux. Dieu nous donne et nous accorde la dignité dans l'égalité par le simple fait d'exister, de vivre. La vie a valeur de dignité pour tous. Nous nous devons d'être dignes pour tous. Et cette dignité de l'être se vit par l'impartialité, la responsabilité, la bienveillance. C'est pourquoi, riche ou pauvre, chaque communauté se doit d'accueillir avec la même qualité tout inconnu, tout étranger à notre communauté, car nous sommes tous égaux en âme, en spiritualité, en cœur et en foi. Les protestants affirment que la valeur d'une personne ne dépend ni de ses qualités, ni de son mérite, ni de son statut social, mais de l'amour gratuit de Dieu, qui confère à chaque être humain un prix estimable. Parmi les principes les plus novateurs de la Réforme, le sacerdoce universel des croyants instaure une place identique au sein de l'Église, à chaque baptisé, à chaque confirmé. Chaque paroissien à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée générale, a un droit de vote, expression de sa dignité, en droit et devoir dans notre paroisse. La communauté chrétienne est fondée sur des notions de partage, d'accueil, de solidarité, de respect mutuel, d'amour universel. L'Église accueille sans exclusive dans son culte, sa vie spirituelle et ses activités, toutes celles et tous ceux qui veulent s'inscrire dans une démarche de foi. Elle reçoit comme membre toute personne qui reconnaît que Jésus-Christ est le Seigneur. Les ministères institués ont fonction de servir en humilité nos prochains. Les ministères de nos paroisses ont fonction de réduire les divisions, les animosités. Nos églises ont pour mission de rassembler, de fédérer, d'unir, et non de marquer des préférences, voire des privilèges de traitement. Le Christ est le seul chef de notre Église. Face à nos droits identiques, nous avons également tous des devoirs. Les fameux commandements du Seigneur. Chaque protestant se doit de témoigner de sa foi sans honte et culpabilité. Chaque protestant se doit de s'engager dans le monde par amour fraternel pour rétablir la lumière, la vérité et la paix. Il n'y a pas de hiérarchie de la foi par le pouvoir, la célébrité ou par l'argent. Notre Église n'a pas de hiérarchie divinement instituée. Dieu aime ceux qui se dépouillent d'honneur, de gloire et d'orgueil. Il apprécie les pauvres, c'est-à-dire les humbles, les modestes, les dévoués, les simples serviteurs discrets, les oubliés, les sans-voix, les méconnus, les inconnus bienfaiteurs, les délaissés du monde. Les riches représentent allégoriquement ceux qui oppriment, qui peuvent user et abuser du pouvoir pour se faire valoir et se glorifier. Les riches, au regard de Dieu, sont ceux qui profitent des biens de ce monde avec partialité, égoïsme et privilège. Dieu choisira toujours le camp des persécutés, des opprimés, des dominés. Contre les riches qui symbolisent en métaphore le pouvoir arbitraire et totalitaire du monde et les puissances de corruption. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas prendre le sens de riche par fortuné, aisé en argent, mais riche dans le sens d'oppresseur, de pouvoir menaçant et cruel. La critique sur le concept du riche est une critique sur l'aspect du pouvoir dogmatique et violent. Dieu ne condamne pas le rapport à l'argent. L'argent n'est pas sale en soi, et en avoir ne doit pas être source de culpabilisation. La Bible nous met en garde sur les risques de tyrannie et de tentation que peut exercer et représenter l'argent, d'où la notion d'éthique sociale sous-jacente des textes bibliques. Le Christ nous demande de ne pas idolâtrer l'argent. Nous n'avons qu'un seul maître, le Seigneur. L'argent n'est qu'un simple outil au service du projet de Dieu. La conscience de chaque chrétien est interpellée par la Bible sur l'utilisation honnête et judicieuse de l'argent, et non pas comme moyen de pression, de manipulation et d'égarement. Le pauvre, dans le sens de la Bible, a valeur de vulnérabilité, de faiblesse, de fragilité, mais aussi de désintéressement, de dévouement et de générosité. Jésus soutient les faibles et les malheureux, ceux qui sont le plus exposés face aux forces du mal. Comme le dit la lettre de Jacques, Dieu a choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde, c'est-à-dire ceux qui sont exclus des grands de ce monde, c'est-à-dire ceux qui ne s'intéressent pas aux gloires illusoires et matérielles de ce monde, en sont exclus. Par le témoignage de Jacques, Jésus nous met en garde de mépriser les pauvres, donc de délaisser et de condamner ceux qui ne suivent pas les dysfonctionnements cruels de ce monde, de pouvoir et d'idolâtrie. Le mot « pauvre » veut dire dépouillement de ses péchés d'orgueil. « Pauvre » veut dire faire le vide de sa pensée pour atteindre la délivrance et la sérénité spirituelle. Pauvre de son esprit pour recevoir l'Esprit de Dieu. pauvre en puissance, donc riche en amour. Pauvre en pouvoir, donc riche en générosité. Pauvre en orgueil, donc riche en modestie. Pauvre en manipulation, donc riche en honnêteté. Pauvre en violence, donc riche en douceur. Pauvre en colère, donc riche en patience. Telles sont les significations essentielles de la pauvreté biblique de la lettre de Jacques. Ainsi, pour nous, paradoxalement, nous mettons en marche une église dans laquelle la pauvreté est une richesse. Ce qui fait la valeur d'une église, ce n'est ni le niveau social de ses membres, ni sa richesse matérielle, ni son importance dans sa ville, dans son département, mais la façon dont elle vit et dont elle témoigne du crucifié. Une église dans laquelle le petit est prioritaire. Une église dans laquelle chacun a une place digne, lumineuse et unique. La transcendance de Dieu implique en même temps la relativisation de tous les pouvoirs humains, qu'ils soient religieux ou politiques. Dieu le Père nous donne une richesse incorruptible d'amour et de lumière. Une richesse infinie de conscience et d'espérance. Jésus nous promet et nous donne la richesse éternelle du salut, nourrie du Saint-Esprit en lumière et en bonté. Il nous demande de nous engager dans ce monde pour l'améliorer, le reconstruire, le renouveler en fraternité, en égalité, en liberté, pour la gloire de Dieu. Qui s'élèvent seront abaissés, qui s'abaissent seront élevés. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, dans la communion de l'Église universelle, nous nous recevons comme serviteurs et servantes. Nos églises seront toujours à réformer pour annoncer l'Évangile dans le respect de la modernité positive de ce monde. Ecclesia reformanda, semper reformanda.